Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez la radio Nzamba Gatika Kawe, merci pour votre fidélité. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Un élément de la Ligue des jeunes Imbonera Kure a été tué la nuit d'hier sur la colline Kinandi dans la province de Muyinga. Les malfaiteurs ne sont pas encore connus, mais 5 suspects ont été arrêtés. Et puis la Banque de la République du Burundi sévit à l'encontre des bureaux de change qui violent la réglementation existante. Les sanctions seront désormais multipliées par 10 pour tous les contrevenants. On en parle dans ce journal. Dans ce journal également, on reviendra sur l'insécurité dans le camp des réfugiés de Lusenda en République démocratique du Congo. Les réfugiés burundais disent être régulièrement persécutés par les éléments des groupes Maïmaï. Voilà pour le sommaire de ce journal que vous présente Joséphine Jansangondimana. Soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Criminalité, pour commencer ce journal. Âgé de 41 ans, un réfugié burundais exilé en Ouganda à Kampala, David Nyokindi, a été tué par des personnes non identifiées alors qu'il rentrait chez lui dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Son corps a été retrouvé dans la matinée de ce vendredi, tout près de chez lui. Selon ceux qui ont vu son corps, la victime a reçu un coup mortel au niveau de la tête. La police ougandaise a confirmé les faits et dit avoir entamé des enquêtes pour identifier les auteurs. Et puis un membre de la Ligue des jeunes Imbonera Kure est mort la nuit de ce jeudi à l'hôpital Muyinga suite aux coups et blessures lui infligés par un groupe de personnes non encore identifiées sur la colline de Kinandi. Les faits se sont passés dans un bar où ces personnes étanchaient leur soif selon des informations en provenance de Kinandi. Pour le moment, 5 personnes sont aux arrêts pour des raisons d'enquête. Les détails avec Alain Majesté Valenga.
La victime s'appelle Jean Mrokozi, alias Masita, de la colline Kinandi, zone Rugari, commune et province Muyinga. Selon des informations à provenance de Kinandi, le défunt répondait à un appel téléphonique d'un parent qui sommait Mrokozi de laisser tranquille sa jeune fille que ce dernier avait incessamment tenté de violer, selon la même source. Arrivé au cabaret tenu par le père de cette jeune fille, Mrokozi, connu de tous comme un Imbonera Kure intouchable et un karatéka, a intimidé l'homme qui l'avait appelé jusqu'à lui donner de fermer le bistrot. Une injonction qui n'a pas plu aux gens qui étanchaient leur soif et la bagarre a éclaté. Mrokozi et son compagnon d'infortune, qu'il entraînait souvent au sport de karaté, ont été passés à tabac et même les gens des alentours du cabaret auraient porté secours à leurs voisins pour calmer Mrokozi, mais en vain. Laissé pour mort, Mrokozi et son compagnon étaient évacués à l'hôpital de Muyinga. 5 personnes sont déjà arrêtées pour des mobiles d'enquête, indiquait-on. Mrokozi avait adhéré à la Ligue des jeunes Imbonera Kure il y a 6 mois, après sa transhumance politique, dit CNL au sein de DFDD.
De Muyinga, Bururi, 2 personnes ont été blessées à la machette par des inconnus en commune et province de Bururi dans la nuit de ce jeudi. La recrudescence de l'insécurité dans cette province inquiète. 3 personnes ont déjà été tuées et plusieurs autres blessées dans cette commune depuis le mois d'avril. Le point avec Eddie Claude Ninina Adzoué.
Parmi les personnes blessées figure une femme de 38 ans qui a été grièvement blessée la nuit de ce jeudi à vendredi vers 23h30. L'anguille Kamikaze a été blessée à la machette au niveau de la tête et des bras par un malfaiteur non encore identifié qui est entré dans la maison en passant par la fenêtre. Les faits se sont passés sur la colline de Mugozi en commune de province Bururi. Ces 2 enfants ont tenté de la sauver et ont crié secours, mais ses voisins n'ont pas intervenu. Ces informations sont aussi confirmées par les autorités administratives et policières dans cette province. De présumés auteurs, y compris la belle-sœur de la victime qui n'est pas intervenue, sont déjà dans les mains de la police. Un autre blessé à la machette est connu sous le nom de Nyongabo, qui habite sur la colline et zone Munini dans la commune de Bururi. Selon des sources sur cette colline, ce domestique qui venait de la recherche de l'herbe pour nourrir le bétail a trouvé des jeunes hommes et filles dans la maison. Ils ont donc pris la machette et l'ont blessé avant de prendre le large. Selon une source administrative, 2 filles et un garçon parmi ceux-là sont déjà arrêtés et la victime a été conduite au centre de santé Munini pour des soins. signalant qu'au moins 3 personnes ont déjà été tuées et plusieurs autres blessées en province Bururi depuis le mois d'avril. Plus de 10 présumés auteurs sont dans les mains de la police à Bururi.
Et les habitants de la commune Guiaro protestent contre ce qu'ils appellent harcèlement dont ils sont victimes de la part du gouverneur de Lutana, Olivier Nibitanga. Ils disent ne pas comprendre comment il est forcé d'exécuter des travaux de construction d'une école technique secondaire Guiaro. Olivier Nibitanga le ferait dans le but de trouver les activités de développement à présenter au chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, qui va effectuer une descente sur terrain ce samedi dans cette province. On fait le point avec Olivier Gakima.
Selon ses habitants de Guiaro, le gouverneur de Lutana, Olivier Nibitanga, exerce une pression sur la population dans le cadre d'exécution des travaux de construction d'une école technique secondaire à Guiaro. Cette autorité le fait, selon les habitants de Guiaro, pour trouver les œuvres à présenter au chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, qui serait attendu en visite dans cette commune ce samedi. Dans une réunion tenue au début de cette semaine, Olivier Nibitanga a intimidé des gens en leur disant qu'ils doivent accepter de travailler à 3000 francs pour les aides-maçons et 7000 francs par jour pour les maçons. La majorité des employés ont dû abandonner ces travaux car ils gagnent normalement 5000 francs par aide-maçon et entre 12000 et 15000 francs par maçon. Olivier Nibitanga a peur qu'il manquera des chantiers de développement à présenter au chef de l'État, souligne nos sources. Celui qui ne va pas accepter ce prix sera soumis à une bastonnade. Seuls les Imbonerakure restent au travail, comme l'indique cette source.
Le gouverneur a imposé que les aides-maçons perçoivent 3000 francs par jour. Avec la pauvreté qui sévit ces derniers temps, ils ont refusé catégoriquement. Ils les ont par la suite intimidés qu'ils seront arrêtés ou soumis au bastonnage. Ils ont abandonné ce travail, que les Imbonerakure répondent présents, ainsi que 4 maçons qui reçoivent 7000 francs par jour. Le chantier est à présent au ralenti.
Suite à ces accusations, la rédaction de la radio Nzamba Agathe Kakawe a contacté par téléphone le gouverneur de la province Lutana, Olivier Nibitanga, pour plus d'éclaircissements sur cette affaire, mais son téléphone était éteint.
Inzamba.
Et dans le domaine des droits de l'homme, les menaces excessives faites à l'endroit de la journaliste Florian Irangabiye démontrent que la justice burundaise ne fonctionne pas correctement. Ce sont là les propos d'Apollonie Stimbizi, porte-parole de l'Alliance des Burundais du Canada ABC. C'est après que la journaliste Florian Irangabiye ait été persécutée dans la soirée de mardi de cette semaine par le directeur de la prison de Muyinga, où la journaliste est incarcérée. Écoutez Apollonie Stimbizi.
L'Alliance des Burundais du Canada a appris vraiment avec stupéfaction à travers les médias que la journaliste Floriane Irangabiye, emprisonnée à Muyinga, a été violentée, intimidée et même harcelée par le directeur de la prison de Muyinga lui-même dans la soirée de mardi le 16 mai. Ce n'est pas la première fois qu'elle subit des menaces dans cette prison. Mais cette fois-ci, c'est clair que le directeur de la prison, qui doit garantir la sécurité et l'intégrité physique et la dignité des personnes incarcérées, l'a fait sciemment avec des motifs de harcèlement face à cette jeune femme sans défense, puisqu'elle est en prison. C'est un traitement inhumain et dégradant. Ici, il y a lieu de se demander pourquoi cet acharnement sur cette femme, qui par ailleurs est injustement incarcérée, juste pour son métier de journaliste et ses opinions. Cela démontre bien que cette peine de Floriane et le harcèlement à son égard est un signe d'intolérance aux voix dissonantes du régime CNDD en place au Burundi. Ces menaces sont excessives envers ces jeunes femmes journalistes. C'est un signe que la justice ne fonctionne pas au Burundi. La persécuter préoccupe tout le monde, y compris certains membres du pouvoir CNDD, parce qu'il y en a qui le disent.
Droits de l'homme, c'est également l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger qui se dit choquée par le décès du détenu Ngendanzi Leonidas, battu à mort dans la nuit du 14 au 15 de ce mois à la prison centrale de Gitega par d'autres prisonniers. Germain Lukuki, président de cette association, demande que les auteurs de ce crime soient punis conformément à la loi, surtout qu'ils sont tous connus.
Depuis des années, les détenus de différentes prisons ne cessent de subir des persécutions infligées par leurs codétenus en complicité avec les responsables des milieux carcéraux. Les auteurs bénéficient à chaque fois de la couverture des responsables pénitentiaires et des autorités judiciaires et restent impunis. Pour le cas présent de l'incident survenu à la prison de Gitega, il est ridicule d'entendre que les détenus qui se lèvent pour demander la justice soient eux qui, à leur tour, subissent des persécutions et des transferts vers d'autres prisons. Depuis mercredi jusqu'à hier, 40 détenus ont été transférés alors que les présumés auteurs restent libres dans la prison. Nombreux de ceux qui ont subi des transferts sont des prisonniers qui ont des dossiers politiques. 11 ont été transférés à Luigi, 9 à la prison de Muramvya et 20 autres ont été transférés à Bujumbura. Ceux qui ont été transférés à Bujumbura sont écroués dans la cellule communément appelée Tinga Tinga, connue comme lieu de persécution des prisonniers, surtout à caractère politique. Rajoutons que tous les prisonniers sont, depuis l'incident, privés du droit à la visite. Les présumés criminels passent depuis le jour de l'incident, cachés entre les murs de la clôture de la prison durant la journée, tandis que la nuit, ils sont logés dans la partie des femmes. Nous demandons à la justice de faire correctement son travail, mener des enquêtes minutieuses par rapport à ce meurtre scandaleux, enclencher l'autopsie afin de conclure sur la vraie cause de la mort de Léonidas et punir conformément à la loi tous les auteurs et leurs complices qui ne cessent d'assurer leur couverture.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Parlons économie à présent, les bureaux de change qui ne respectent pas la réglementation verront désormais les sanctions multipliées par 10. C'est une mise en garde faite par le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, BRB. Dieudonné Mulengano Ali l'a dit ce mardi dans une réunion avec les responsables de ces bureaux de change. Il a fait savoir qu'un bureau de change qui n'aura fait une transaction dépassant 80 000 dollars par mois sera fermé. Suivez le gouverneur de la BRB, Dieudonné Mulengano Ali.
Nous faisons tout cas là, yuko, à mon collègue, mon appareil. Tukaraba yuko mutegeza guhemba bakozi. Tukaraba yuko mutegeza guhana inyungu ntoya.
Tenant compte que vous avez payé des loyers pour les bureaux dans lesquels vous travaillez, tenant compte aussi que vous devez payer le personnel et réaliser des bénéfices. Si par exemple un bureau d'échange va réaliser un bénéfice de 10 millions par mois, il faut avoir un minimum une transaction qui n'est pas moins de 250 millions par mois. C'est autour de 80 000 dollars. Si c'est un bureau d'échange qui n'aura pas réalisé une transaction de 80 000 dollars par mois, sera fermé. Un bureau d'échange qui n'aura pas prouvé qu'il a la capacité d'acheter 80 000 dollars et les vendre par voie officielle, sera fermé. Celui qui ne se sent pas capable de le faire, qui se retire rapidement durant les deux premières semaines qu'on a appelées semaines témoins. Celui qui se rendra compte qu'il n'est pas encore arrivé à moitié, qui se retire. Nous allons rester avec les bureaux de banque ou un, deux bureaux qui travaillent conformément à la loi. Autre chose, au lieu de sanctionner un bureau d'échange qui n'aura pas respecté la loi, nous allons punir le responsable en personne. Deuxièmement, si une sanction d'une amende de 500 000, nous estimons que ce n'est pas suffisant comme sanction, les sanctions seront multipliées par 10. Celui dont la sanction était de 500 000, il va payer 5 millions. Celui dont la sanction était d'un million, il va écoper d'une amende de 10 millions de francs beaux. Comme ça, celui qui se sent capable d'exercer son métier va continuer et celui qui ne se sent pas, mais il qui change de métier.
Awa chibga amande 5 millions de francs
La Banque centrale ne devrait pas être la seule institution à gérer les devises qui entrent dans le pays, comme l'explique Fossin Dekoumana, expert en économie et président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM. Fossin Dekoumana trouve toutefois normal la décision du gouverneur de la Banque centrale d'exiger au bureau de change de faire des transactions mensuelles fixées au minimum à 80 000 dollars. Car pour lui, la Banque centrale doit contrôler le fonctionnement dès lors qu'elle contribue à ses bureaux. Fossin Dekoumana.
Et normalement, si la banque centrale octroie des lots de devises aux banques commerciales, aux bureaux de change, la banque centrale doit édicter une réglementation par rapport à ces devises qu'elle offre dans ces institutions. Donc les bureaux de change doivent collaborer avec la banque centrale s'ils sont autorisés à travailler. Elle commence à recevoir même un lot de devises provenant de la banque centrale. Ça fait normal la réglementation. Et maintenant, la banque centrale a essayé de casser son monopole de gestion de ces devises. Si elle commence à laisser d'autres partenaires s'engager dans la gestion des devises, elle doit garder un droit de regard sur la réglementation du fonctionnement de la gestion de ces devises. C'est tout à fait normal. Mais le grand problème est qu'on dirait que maintenant c'est la Banque centrale qui est une institution qui gère, qui doit gérer la problématique de la gestion des devises dans son pays. La Banque centrale, c'est une banque. C'est le caissier du gouvernement. Mais il faut savoir que d'autres cadres du gouvernement qui lancent les ministres, les ministères doivent aider à ce que l'augmentation des devises soit une réalité. Parce que la Banque centrale ne gère ce que le trésor public a comme devise. Il faut revoir. Est-ce que dans le ministère de l'Agriculture est en train de faire, qu'est-ce que le ministère de l'Agriculture est en train de faire pour que, par exemple, l'augmentation des devises provenant du café, du thé, du coton soit une réalité? Le ministère de l'Énergie et Mines, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que les devises provenant du secteur minier augmentent? Le ministère du Commerce, pour que les devises provenant du tourisme, des hommes d'affaires, des investissements étrangers, augmente. Le ministère de la Relation extérieure pour que les devises venant de la diplomatie des relations bilatérales ou multilatérales avec les partenaires techniques et financiers augmente. C'est tout ça pour augmenter le trésor. Sinon, la Banque centrale gère ce qu'elle a. Donc, j'imagine que dans cette situation, l'intervention doit être double. La Banque centrale maintenant a moralisé la gestion, a essayé de prendre des formes courageuses pour que la gestion de ces devises prenne un chemin normal. Et nous avons encouragé même les actions du nouveau gouverneur. Mais l'augmentation des devises en soi, il faut que notre partenaire intervienne pour que le trésor public en matière de devises augmente substantiellement.
L'actualité de ce vendredi, c'est également l'insécurité qui persiste au camp des réfugiés burundais de Lusinda dans la République démocratique du Congo. Depuis le début de cette semaine, certains réfugiés subissent des actes de violence leur infligés par des éléments identifiés comme les Maïmaï. Dans la soirée de ce mercredi, plusieurs réfugiés ont été tabassés par ces éléments Maïmaï. Les réfugiés burundais craignent que la situation ne s'empire les jours à venir. On fait le point avec Pierre Gahungu.
Selon Olivier Iranzi Numangende, le porte-parole du président du comité des représentants des réfugiés au camp de Lusenda, les réfugiés viennent de passer 4 jours dans un état d'insécurité. Ils accusent les éléments du groupe de combattants Maïmaï de soumettre certains réfugiés à des séances de bastonnade sans aucun motif valable. Cette bastonnade varie entre 50 et 100 coups de bâton. Cette situation crée un climat de méfiance entre le groupe et les réfugiés. Écoutez Olivier Iranzi Numangende.
Juste vous éclaircir que c'est vrai, dans 2 jours que nous venons de passer, il y a eu des camps de torture, je dirais, puisque les réservistes entrent dans les cas, arrêtent les réfugiés, les fouetter, les tracasser, les menacer, les consorts. Cela donc inquiète surtout aussi la sécurité des réfugiés.
Il demande aux autorités congolaises, au HCR et à l'opinion internationale d'intervenir rapidement afin d'arrêter les hostilités du moment que les réfugiés ne s'accusent de rien.
C'est ainsi que nous demandons au gouvernement congolais ainsi que au chargé des droits de l'homme au niveau national et international d'intervenir et aussi d'ouvrir les enquêtes en rapport avec la situation sécuritaire, les droits sur les droits des réfugiés burundais en RDC.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pas encore eu la version du HCR, ni celle de Didier Numbi, administrateur du camp de réfugiés de Lucenda. Mais d'après les informations recueillies plus tard, la police a confirmé l'irruption des éléments du groupe Mai Mai au camp de réfugiés de Lucenda. C'était lors d'un entretien des représentants du comité des réfugiés et de la police.
Merci Thierry Gaungu. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme et des réfugiés vivant dans les camps des réfugiés CBDHVK déplore ce harcèlement des réfugiés burundais du camp de Lucenda. Elle dénonce la complicité de ces éléments des Mai Mai dans les bavures avec les agents de sécurité. Écoutez Léopold Charangabo, vice-président de la coalition CBDHVK.
Exact, ignoble, à rencontre des réfugiés burundais à Lucenda, en République démocratique du Congo, par les groupes rebelles, notamment les Mai Mai, sont à déplorer par tout le monde. Dès l'arrivée en RDC, les réfugiés burundais sont souvent victimes de la torture et d'autres menaces causées soit par ces groupes rebelles ou soit par les agents de sécurité congolais. Et il y a aussi souvent une collaboration étroite entre les Mai Mai et les agents de sécurité congolais qui assurent la sécurité des réfugiés burundais qui se trouvent dans le camp de réfugiés de Lucenda et aussi Murongwe. Pour ça, nous demandons au gouvernement congolais de prendre la sécurité des réfugiés en main, plutôt de laisser les réfugiés entre les mains des groupes rebelles. Nous demandons aussi ces autorités congolaises de mener une enquête pour arrêter et traduire en justice les agents de sécurité congolais qui collaborent avec ce groupe rebelle et bien sûr pour se débarrasser des Mai Mai qui nuisent la sécurité de la localité. Nous demandons au HCR de continuer à plaider pour les réfugiés auprès du gouvernement et aussi auprès de la communauté internationale afin que ces réfugiés puissent être sécurisés comme il faut ou les transférer dans d'autres pays ou zones où il y a la sécurité. Nous exhortons à la communauté internationale de suivre de près la situation sécuritaire des réfugiés burundais qui sont dans les camps de réfugiés en RDC et condamne les actes de violation des droits à la sécurité faits par ces groupes rebelles.
Voilà, c'était Léopold Charangabo, vice-président de la coalition CBDHVK, et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.